Bonjour, bienvenue dans Je crois donc je parle, un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web. Bonne écoute.
Cher ami auditeur, auditrice, salut. C'est votre ami Wendell Benjamin Etienne Web. C'est avec la même détermination, la même passion que je vous apporte un nouvel épisode à Je crois donc je parle. Merci de votre fidélité à nous écouter. J'espère qu'à travers l'épisode que je vais vous présenter, vous serez en mesure de pouvoir défendre et promouvoir l'héritage chrétien. Voilà pourquoi le titre de notre nouvel épisode est « L'héritage chrétien entre rupture et continuité ». Je vous souhaite une bonne écoute, ça va être très intéressant. Restez branchés et à tout à l'heure.
Pour la vision biblique du monde, avec Web.
Comme promis, nous sommes de retour. L'héritage chrétien entre rupture et continuité. Au 21e siècle, vaut-il la peine de se battre pour la conservation et la transmission de l'héritage chrétien? En réalité, que traîne derrière lui l'héritage chrétien? À Joachim Pauls de soutenir l'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité, une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusions, pleine de dévotion et de passion. Une route faite de longues dates historiques, mais de vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure plus de 2000 ans. Joachim Pauls, 2000 ans de christianisme, documentaire. L'héritage chrétien est truffé d'épisodes positifs et d'épisodes négatifs. Est-il en disgrâce pour autant? Il est évident que certaines parties non négligeables du monde sont en train d'être déchristianisées. C'est le cas, par exemple, de l'Europe, où la quantité de ceux qui s'identifiaient à la foi chrétienne est en baisse constante à partir du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui explique ce désenchantement? Désenchantement à la foi chrétienne. En ce qui concerne l'Europe, au cours du XXe siècle, Jean-Baptiste Noé, dans son article intitulé « Les raisons de la déchristianisation de l'Europe », présente les cinq raisons suivantes. 1. La très nette amélioration des conditions de vie. 2. L'essor de l'individualisme. 3. La présence de régimes politiques antichrétiens. 4. L'ambiguïté des missions. Et 5. L'incompréhension face au monde. Ces raisons doivent être sérieusement analysées. Cependant, beaucoup de gens restent persuadés que même si l'Europe est déchristianisée, dépendamment bien sûr du niveau de déchristianisation qu'elle a connu, l'empreinte chrétienne y demeure toujours. Nous pouvons facilement faire ce constat à travers plusieurs domaines comme les arts, la science, l'organisation de certains États démocratiques. Il existe encore en Occident une certaine mentalité chrétienne. Citée par Viviane O'Batton, tels sont par exemple les avis de deux penseurs. Pour le recteur du collège de Bruges, la foi chrétienne est demeurée le fondement, le point de référence et la norme de notre morale commune. Il discerne même dans le marxisme la subsistance d'un vestige chrétien, le mythe de la salvation absolue qui absoudrait tous les crimes. Eliot note à ce propos, un individu européen peut ne pas croire que la foi chrétienne est vraie, et déjà ce qu'il dit, construit et fait, va jaillir de son héritage de culture chrétienne et dépend de cette culture pour toute signification. Seule une culture peut avoir produit un Voltaire ou un Nietzsche. Si le christianisme disparaît, la totalité de notre culture disparaît. Fait de citation. Il n'y a pas qu'en Europe où on assiste à cette désaffectation de la foi chrétienne, mais aussi aux États-Unis et au Canada, notamment au Québec. Aro Van Boomlin nous rapporte des études qui ont été menées auprès des adolescents canadiens à qui on a posé la question suivante. Où iriez-vous chercher de l'aide si vous aviez une décision à prendre dans le domaine pécuniaire, relationnel, sexuel, moral, scolaire, professionnel, ou si vous aviez un gros problème? 4% seulement des jeunes interrogés ont répondu qu'ils iraient voir un prêtre ou un pasteur. Lamentable constat. Quelque chose ne va pas. Alors, une question fondamentale mérite d'être posée. L'Église est-elle toujours considérée comme une structure sociale capable de maintenir le flambeau de la foi ou de la vérité? De toute évidence, beaucoup de sociétés contemporaines, pour beaucoup d'entre elles, la réponse est un non catégorique.
Pour la vision biblique du monde, avec Web.
Voyons d'autres raisons pouvant expliquer le désenchantement. À mon avis, sans ignorer catégoriquement les raisons évoquées par Jean-Baptiste Noé, dans le cas de l'Europe, j'évoque les raisons suivantes expliquant le recul de la foi chrétienne en général. 1. La montée de la sécularisation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus une tendance à tenir un discours qui vise à détruire la foi chrétienne en prônant la laïcité de l'État. Cette tendance prend plusieurs formes comme le nationalisme et le marxisme. C'est ainsi que la nationalisation de certaines institutions fut un discours très répandu. Par conséquent, l'influence qu'avait l'Église sur des sociétés qui étaient dans une certaine mesure influencées par la culture chrétienne est progressivement diminuée, voire considérablement réduite ou éliminée. L'Église cesse d'être un rempart moral. 2. Le pluralisme idéologique et le relativisme moral. Le pluralisme idéologique veut que toutes les opinions se vaillent et que toutes les religions mènent à Dieu ou au même Dieu. Par conséquent, tout ce qui compte, c'est la sincérité ignorant qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Une telle tendance philosophique et morale produit des individus qui ne sont sûrs de rien du point de vue de la spiritualité, mais qui cherchent tout simplement des sensations fortes. C'est ainsi que beaucoup de gens ne voient pas dans le christianisme une réponse satisfaisante à leur recherche d'expériences spirituelles hallucinantes. Ils le trouvent trop froid et peu profond. La crise de conviction engendrée par le pluralisme idéologique relativise et la morale et la vérité. Par conséquent, elle constitue en fait une entrave à la vérité objective ou à sa recherche tout simplement. Notre génération tente à rejeter la notion de vérité absolue, les métarécits pensant qu'à chacun sa vérité. Elle ne veut plus une entité morale pour édicter ou imposer des normes morales. 3. Déception par rapport à des pratiques trop longtemps cachées et ignorées. Beaucoup de gens sont déçus de l'Église quand ils entendent tous les scandales de pédophilie, l'Église catholique en particulier, d'abus sexuels et de torts commis dans le passé. Et jusqu'à aujourd'hui, le cas de 751 tombes découvertes lors des fouilles près d'un pensionnat pour autochtones géré par l'Église catholique au Canada et la reconnaissance en la même année par l'Église catholique de France des abus sexuels commis en disent long. Aucune somme d'argent ne pourra jamais dédommager ces vies bousillées. Par ailleurs, certains penseurs acculent l'Église comme étant responsable ou complice des atrocités de l'esclavage moderne. Par conséquent, pour eux, l'Église n'est plus crédible spirituellement et moralement. 4. La prise d'assaut de l'Église par un groupe d'activistes religieux. Dans le monde évangélique, les églises pullulent et des leaders de tout acabit sont au devant de la scène pour proposer toutes sortes de recettes de délivrance et de miracles. Beaucoup de ces églises sont complètement désengagées dans les affaires sociopolitiques, prêchant ainsi une vie heureuse dans l'au-delà en niant volontairement les réalités terrestres et cosmiques de l'être humain. Ce phénomène est très présent aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine et avec l'évangile de la prospérité. Sauf que dans les deux derniers cas, le christianisme n'est pas aussi désenchanté comme en Occident. 5. le sentiment d'autosuffisance. L'homme postmoderne réclame son autosuffisance vis-à-vis de toute forme d'autorité. Ceux qui ont considéré l'Église comme une béquille ou un apaisement social ont fini, au fur et à mesure, par être déçus du message dans lequel ils croyaient tant. Par conséquent, dans l'opulence, Dieu n'est plus une nécessité. Il est mis sur la touche. Il ne sert plus à rien. 6. Le désengagement social de l'Église. Aujourd'hui, notamment dans les pays sous-développés, l'Église est perçue par plus d'un comme un mouvement spiritualiste ayant affaire avec des anges terrestres qui se ferment les yeux sur la misère, l'injustice, la corruption et la très mauvaise gestion de la cité. Ces gens finissent par comprendre que l'Église n'est pas en mesure de répondre à leurs aspirations de liberté, de bonheur, de développement et d'accomplissement de soi. En réalité, les églises pouvaient mieux répondre aux besoins des gens si elles étaient plus organisées, unies, tout en minimisant les différences. 7. Ignorance coupable de l'héritage chrétien ou une lecture défectueuse de l'histoire du christianisme. Notre siècle est peuplé de spécialistes. Tout le monde avance n'importe quoi pourvu que la parole soit libérée par les réseaux sociaux et les médias. Il est très facile de critiquer, de faire des allégations et d'accuser la Bible ou la foi chrétienne de tous les maux du monde. Mais le défi se présente quand il faut faire un effort pour soutenir ses propos avec des arguments solides. C'est très bien de pouvoir libérer ses pensées, mais c'est à quelle fin en réalité? Beaucoup de gens se basent sur certains événements fâcheux qui se sont déroulés dans le passé, tout en ignorant la grande histoire. Par exemple, beaucoup d'intellectuels soutiennent la fausse thèse selon laquelle le christianisme n'a rien à voir avec la science, taxant le Moyen-Âge comme étant l'âge des ténèbres à cause de la domination de l'Église d'alors. Mais ils ignorent totalement que le christianisme est responsable de l'avènement de la science moderne et que le Moyen-Âge a posé les bases de sa floraison. La thèse selon laquelle la foi chrétienne est responsable de l'avènement de la science moderne et que le Moyen-Âge a posé les bases de sa floraison est développée par Nancy R. Piercy et Charles B. Taxon dans leur ouvrage « The Soul of Science, Christian Faith and Natural Philosophy »« L'âme de la science, la foi chrétienne et la philosophie naturelle ». Cette thèse est aussi soutenue par Rodney Stark dans « For the Glory of God, How Monotheism Led to Reformation, Science, Witch Hunt and the End of Slavery ». Ceux qui ne sont pas fondés, en écoutant ces discours parfois prononcés avec éloquence, rejettent de revers de la main la foi chrétienne, la qualifiant de superstition. Le christianisme repose non seulement sur des faits, mais aussi c'est l'héritage dont l'influence ne cessera jamais sur les sociétés humaines. Alors, comment peut-on définir l'héritage chrétien? L'héritage chrétien est une vision du monde basée sur des valeurs judéo-chrétiennes transmises de génération en génération à travers des vecteurs divers et variés ayant influencé et continuent à influencer d'une manière ou d'une autre des civilisations. Elle est christocentrée.
Pour la vision biblique du monde, avec Web.
Voyons à présent les vecteurs de transmission de l'héritage chrétien. Parmi les vecteurs de transmission de l'héritage chrétien, nous citons la Torah, la Bible, l'histoire, Jésus comme repère de datation des événements, l'histoire de l'Église, les familles chrétiennes, l'Église locale, les institutions chrétiennes comme écoles, universités, organisations non gouvernementales, les séminaires de théologie, les agences missionnaires et les médias, etc. En ce qui concerne les universités chrétiennes, un point important mérite d'être fait. L'histoire retient que les plus prestigieuses universités au monde, comme Harvard, Cambridge, Oxford, étaient au départ des séminaires de théologie fondés par des chrétiens. Donc, les universités chrétiennes sont des vecteurs par excellence de la transmission de l'héritage chrétien à partir de la production du savoir. Les écoles et universités chrétiennes de notre époque doivent pouvoir être en mesure de transmettre l'héritage chrétien, non seulement à partir de la pratique de l'éthique chrétienne, mais aussi en faisant refléter dans leur curriculum et leur pratique d'apprentissage des valeurs bibliques. Ce qu'il nous faut aujourd'hui est surtout l'implémentation et la transmission d'une philosophie de l'éducation chrétienne au sein de ces institutions. Entre rupture et continuité. L'héritage chrétien exige d'une part la continuité dans le contexte de la révélation progressive, la transmission efficace des valeurs bibliques transcendantales et la conservation des épisodes positifs de son passé historique, comme son apport à la science moderne, sa capacité à dénoncer le mal moral et social et sa tradition de défense des sans-défense à travers des actions sociales holistiques et concrètes. D'autre part, notre héritage chrétien exige la rupture dans le contexte des épisodes tristes et négatifs de son passé. Parmi les épisodes tristes, nous évoquons l'union de l'Église avec l'État, l'instrumentalisation de l'Église à des fins politiques douteuses à partir de l'empereur romain Constantin, les croisades, la complicité de certains dans le soutien de l'esclavage moderne à une échelle ou une autre forme d'instrumentalisation et de paupérisation, cas de Christophe Colomb par exemple, les indulgences, l'évangile de la prospérité qui tente à orienter l'Église uniquement vers la libération sociale, l'obscurantisme, certaines formes d'aliénation mentale et culturelle et le mépris de la science et de la connaissance par certains. Nous devons avoir du courage pour reconnaître les bavures causées par des institutions chrétiennes dans le passé, comme aujourd'hui au nom de Jésus. À travers l'histoire même de l'Église, des ruptures ont eu lieu. La plus fameuse rupture est la réforme protestante du XVIe siècle. Tout en prônant un retour à la source comme continuité, Martin Luther et d'autres réformateurs ont en même temps tenu un discours de rupture. La rupture est encore nécessaire aujourd'hui. Nous devons rompre avec des pratiques qui ne reflètent en aucun cas la mission de l'Église et avec des modèles de leadership et d'organisation dépassés et déphasés. Une démarcation est nécessaire. Existe-t-il une différence entre l'héritage chrétien et l'héritage légué par le Christ? Cette différence mérite d'être établie avec sérénité. L'héritage chrétien n'est pas parfait. Souvent, il est en décalage avec les enseignements et les pratiques du Christ. Le christianisme historique n'est pas forcément le christianisme biblique. À un certain moment donné, jusqu'à aujourd'hui, l'héritage chrétien a été dénaturé, pris en otage par des politiciens véreux et des religieux, entre parenthèses chrétiens, sans aucun sens d'appartenance au message du Christ. À quoi ressemble un héritage chrétien qui reflète la pensée du Christ? Un héritage chrétien qui reflète la pensée du Christ met premièrement en exergue la vérité selon laquelle l'être humain a une dignité intrinsèque. C'est non négociable. Cet héritage reflétant parfaitement un christianisme biblique a toujours été contre l'esclavage et toute autre forme d'aliénation et de pratiques dégradantes. Il est pour la justice, la liberté et le respect de la vie et de l'environnement. Dans ce contexte, nous pouvons considérer les efforts colossaux de John Wesley en Angleterre, de Jean Calvin en Suisse, de William Carey en Inde, de William Wilberforce en Angleterre, du Dr Martin Luther King Jr. aux États-Unis, de Mère Teresa en Inde, etc. Ces hommes et femmes ont été interpellés par les crises sociales et culturelles de leur époque au nom des valeurs chères à l'Évangile. À cette liste, nous pouvons ajouter des hommes comme C.S. Lewis, le plus grand apologète du XXe siècle, Francis Schaeffer, Dietrich Bonhoeffer, Ravi Zacharia, et tant d'autres qui ont fait et qui continuent à faire un travail considérable à travers leurs écrits, des conférences et autres pour penser la foi chrétienne. Car il ne faut pas seulement une implication sociale pour changer les conditions matérielles des individus, mais aussi penser le message du Christ pour changer les mentalités et provoquer de vrais changements de camp. Deuxièmement, un héritage chrétien sain se base sur l'intégrité, le respect de l'autre, la tolérance et l'amour du prochain. Voilà en quoi consiste le message que nous sommes appelés à diffuser au monde entier, en commençant d'abord par nos familles pour influencer les sociétés à la gloire de Dieu. Troisièmement, l'héritage que nous voulons perpétuer dans le monde doit accorder une grande importance à la science ou au savoir tout simplement. On se réfère souvent au drame de Galilée pour incriminer la Bible d'anti-science. Mais ce que nous oublions, c'est que si l'Église catholique d'alors s'est leurrée en détruisant la vie d'un scientifique de la trempe de Galilée, ce dernier était lui-même chrétien jusqu'à sa mort. Dans mon ouvrage « Faiseur de disciples » ou « Faiseur d'aliénés », je consacre tout un chapitre à la vision biblique de la science. Prière de vous le procurer sur Amazon. Quatrièmement, un héritage chrétien sain est pour la vérité selon laquelle Jésus est mort et ressuscité, pour le rachat du péché de l'humanité. C'est l'échafaudage. Il n'y a pas d'héritage chrétien sain sans la croix et la résurrection.
la vision biblique du monde avec Web.
Notre attitude vis-à-vis de l'héritage chrétien. Quelle devrait être aujourd'hui notre attitude vis-à-vis de l'héritage chrétien? À mon avis, nous devrions avoir trois attitudes majeures. D'abord, nous devons étudier et comprendre l'héritage chrétien, non seulement pour donner des bases solides à notre foi, mais également pour être mieux armés à répondre avec respect et amour aux détracteurs de toujours de la foi chrétienne. Ensuite, nous devons avoir l'esprit ouvert et développer la pensée critique pour prendre un peu de recul, pour questionner l'héritage chrétien, accepter les épisodes négatifs sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Faut-il rappeler que l'Empire romain n'a pas été le premier État à avoir embrassé le christianisme comme religion d'État ou officielle? Souvent oublié, le royaume d'Aksum ou l'Empire Aksum contient des épisodes importants de notre héritage chrétien, surtout pour l'histoire de l'Église africaine. Aksum était un empire commercial centré sur l'Érythrée et le nord de l'Éthiopie. À son apogée, il s'est étendu jusque sur la majeure partie de l'Érythrée actuelle, l'Éthiopie, la Somalie, le Djibouti, le Soudan, l'Égypte, le Yémen et l'Arabie Saoudite. À l'époque du roi Ezana, qui abandonna ses croyances polythéistes pour devenir chrétien, le christianisme était alors devenu la religion des Aksumites entre 330 et 360. Le royaume d'Aksum était devenu ainsi le deuxième état chrétien de l'histoire après l'Arménie, qui le devint entre 301 et 314 après Jésus-Christ. Le royaume d'Aksum est considéré comme le premier état à avoir utilisé l'image de la croix sur ses monnaies. Enfin, nous devrions être fermes sur les valeurs et convictions chrétiennes sans être bornés. C'est ainsi que nous pourrons transmettre le plus fidèlement possible le message d'amour, de paix et de justice de Jésus-Christ, tout en étant capables de faire la différence entre nos préférences ou convictions personnelles, les principes communautaires ou nos credos et les absolutives, c'est-à-dire les principes bibliques. Je vous invite à réfléchir sur ces deux questions majeures posées par l'auteur du documentaire que j'ai évoqué tout au début. Qu'était-il advenu de l'idéal d'amour fraternel prêché par et entre les premiers chrétiens? Qui pouvait déterminer la vraie interprétation des valeurs chrétiennes? Une hiérarchie puissante ou les consciences individuelles? Un héritage qui perdurera. J'ai l'intime conviction qu'aucune civilisation, époque, histoire, philosophie et idéologie ne peut en aucun cas stopper l'héritage chrétien ou l'héritage du Christ dans le monde. Car il s'agit d'un héritage fondé sur Jésus-Christ, le roc séculaire, le chef suprême de l'Église. Même le séjour des morts ne peut rien contre lui. Un christianisme tombé dans de mauvaises mains et de mauvaises consciences est capable de causer des dégâts énormes. Mais entre les mains de ceux qui épousent la vision de Jésus, il est capable de transformer et de racheter des communautés. L'héritage chrétien n'est-il pas la meilleure vision du monde à transmettre à notre génération? En somme, voici une pensée essentielle à retenir. Un christianisme tombé dans de mauvaises mains et de mauvaises consciences est capable de causer des dégâts énormes. Mais entre les mains de ceux qui épousent la vision de Jésus, il est capable de transformer, de racheter des communautés. Une question de réflexion pour vous. En tant que chrétien ou chrétienne, quel héritage voudriez-vous léguer à ce monde, notamment à vos enfants? Voudriez-vous maintenant faire cette prière avec moi? Seigneur, le gardien de l'héritage du Christ, tu as toujours été fidèle à ton Église. Malgré les nombreuses tentatives pour essayer de l'éradiquer de la face du monde, elle continue à porter ton nom. Je te prie de pardonner les péchés de toutes les sociétés qui te rejettent et de bénir toutes celles qui restent attachées à toi et au message du Christ. Aide-moi à être un vecteur de transmission fidèle de ton héritage dans le monde. Bénis ton héritage, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Cet épisode est tiré de mon tout dernier ouvrage, Le mandat ignoré, réflexion sur le mandat du chrétien dans le monde et l'existence humaine, disponible sur Amazon en version numérique et brochée. Merci de m'avoir écouté.